Récréation sonore.
Sur Radio Campus Paris, Paris.
Bonsoir, bienvenue dans Récréation sonore. Ce soir, nous écoutons un documentaire, Les Sentinelles, réalisé par le collectif Le Bruitagène à Nantes. Pierre Laine, Marie Jouet, David Brown et Anaïs Deneau. Ce sont des témoignages de vie dans la rue.
Bonjour, toutes les lignes de votre correspondance sont occupées. Veuillez rappeler ultérieurement. Hello. Bonjour, toutes les lignes de votre...
Putain...
Hello, all of the lines of your correspondent are busy.
Bonjour, vous avez composé le 115 de la Loire-Atlantique, numéro d'urgence pour les sans-abri. Restez en ligne, un écoutant social va vous répondre. Ce service vous écoute et vous oriente vers les hébergements d'urgence disponibles. Vous informe concernant l'aspect alimentaire, vestimentaire, l'hygiène, les soins et l'accès aux droits. Attention, notre service de téléphonie sociale est en mesure de repérer la provenance des appels malveillants et en fera état au service de police.
C'est dur. Après 25 minutes d'attente, c'est dur. Qu'est-ce qu'on fait ?
Je m'appelle Sébastien. J'habite à Nantes, donc je suis domicilié au CCAS. Donc moi, j'étais militaire. Je suis resté presque 5 ans à l'armée. Je voulais me faire réformer de l'armée, arrêter l'armée, par n'importe quelle manière. Et donc je suis arrivé sur Nantes. J'avais des problèmes avec pas mal de choses parce que je suis quelqu'un, bon ben voilà, qui était assez anxieux. Et après, bon ben, j'ai fait un petit séjour en fait en prison. Et suivi de ça, donc quand je suis sorti de dehors, bah, je suis sorti sans rien. En fait, j'ai tout perdu, quoi. Je suis sorti de prison, c'est la seule chose que j'ai fait, c'est que je me suis acheté un sac à dos, une tente. On m'avait tout brûlé, mes papiers, par colère. Donc, j'avais vraiment plus rien. J'ai vécu pendant, ouais, on va dire 2 ans et demi. J'étais derrière le pont de la Genolière, en fait. Parce que moi, je voulais me retirer vraiment de Nantes. C'est-à-dire, le soir, je voulais être seul. Je me suis dit, la journée, je vois mes amis, je vois les personnes aussi qui étaient à la rue. On avait, voilà, des très bons amis et tout. Mais le soir, je voulais rester seul. Je préparais ma tente, donc je rangeais tout. Je prenais mon sac à dos, je prenais mes chiens et j'allais chercher mon traitement au triangle. J'avais 1 heure et demie de marche déjà pour aller jusque-là. Mais j'avais besoin de me retirer. Je voulais vraiment être en dehors et voilà, en ayant ma petite indépendance. Je voulais vraiment avoir ça, quoi. Et je pense que ça m'a aidé.
J'étais au Zaïre. Là-bas, c'était la guerre civile. Bah, ma mère, elle a tout fait pour me sortir de là-bas. Hein, elle m'a envoyé en Angleterre. Là-bas, c'est pas du tout comme la France. Les quartiers en Angleterre sont différents des quartiers de France. Et ici en France, ce n'est plus dans comment, c'est quoi le mot ? On marche seul en France. Chaque individu, il marche seul en fait. Il n'y a pas vraiment un truc de groupe en France en fait. Tu sais, en Angleterre, ça se passe en gang, c'est les gangs en fait. Les gangs des couleurs. Il y a les gangs bleus, rouges, violets, jaunes. Et c'est des gangs, voilà, qui se tapent entre eux en fait. Un peu comme aux États-Unis en fait. On les imite en fait. Et bah, du coup, à force de le faire, bah, ça devient dangereux. Il y a des gens qui meurent, tout ça. Et quand tu grandis dans un quartier en Angleterre, normalement, c'est à l'âge de 12 ans que tu commences à rentrer dans une gang. Et ma mère, en fait, elle avait peur pour moi. En plus, à cet âge-là, bah, je faisais beaucoup de conneries, beaucoup de bêtises et tout. Bah, du coup, elle m'a envoyé en France chez ma grand-mère. Et quand je suis arrivé en France, j'avais peur, en fait. J'avais peur parce que je connaissais rien, je savais même pas comment faire pour retourner en Angleterre. J'avais l'impression d'être en prison, je comprenais pas la langue. J'avais 13-14 ans Et voilà, d'habiter chez ma grand-mère, c'était dur. Elle était vieille, elle pouvait pas trop s'occuper de moi. Ouais, elle a essayé de me mettre à l'école, ben ça s'est pas bien passé parce que je savais pas très bien lire et écrire le français. Je pense que c'était à l'âge de 17, 18, elle m'a mis à la porte. Je savais pas comment faire pour voilà, trouver comment je peux dire ça, une situation stable et tout. Ça s'arrêtait pas, fallait bien survivre. Et après, quand j'ai eu 19, 20 ans, je crois que j'ai commencé à faire de la musique. Je me suis mis avec des groupes. J'ai fait plein de contacts dans le milieu de la musique. En fait, c'est ça qui m'a permis de tenir et de jamais rester dehors parce que je connaissais toujours quelqu'un dans le milieu de la musique qui me dépannait, qui m'aidait et tout ça. Du coup, bah, je suis là. Hein. Je dois recommencer à zéro parce que là, si je veux vraiment, je peux faire du business et gagner de l'argent. Je peux le faire, mais j'ai envie d'être clean en fait. J'ai envie de recommencer à zéro et de m'en sortir honnêtement. Mais c'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais je sais que je dois le faire et c'est important et ça vaut le coup. De s'en sortir honnêtement. Ça y est, c'est ma copine qui m'a appris ça.
Au départ, je suis lorrain, un ouvrier comme tout le monde, sa petite vie comme tout le monde, et saturation d'effectifs, donc fin de contrat. Je cherche du boulot à côté, je monte sur Paris, arrivé sur Paris, on me dit qu'il n'y a pas de boulot. Donc j'étais avec ma femme était enceinte, donc on se retrouve à la rue, ma femme accouche à la rue, d'un petit garçon, Jonathan, les pompiers viennent, la police vient, ma femme va à l'hôpital et moi je suis en garde à vue. Pourquoi? Pour non-assistance à personne en danger. C'est ce qu'ils m'ont sorti. J'ai dû justifier comme quoi j'avais payé tous les foyers sur Paris pour protéger au moins ma femme et mon fils. Donc tout le parcours que j'avais fait avec la police. Donc ils m'ont relâché au bout de 48 heures. Ma femme était restée à l'hôpital avec le petit. Elle pouvait sortir de l'hôpital au bout de 9 jours. Donc on se retrouve dehors, à la rue. Effet médiatique, relogement en hôtel pendant une semaine. Au bout de 2 semaines, on se retrouve de nouveau à la rue. L'État nous avait payé l'hôtel pendant une semaine. On se dit, si demain il fait aussi froid que ça, on ne peut pas rester dehors. C'est pas possible. Ça, c'était au mois de décembre 93. On dit que c'est pas possible. Si demain on est encore là, on rentre dans une église, on fait quelque chose, mais on reste pas comme ça. Malheureusement, le lendemain, mon fils est décédé. Mon fils est mort de froid. Donc, de nouveau, grosse pression médiatique et tout. Ma femme qui fait une grosse dépression nerveuse. 15 jours après, elle se suicide sur le pont d'Anières. Moi, là, pétage de plomb. Je me suis retrouvé donc à l'hôpital Maison-Blanche à Paris, en psychiatrie. Au bout de 2 ans, je suis sorti de l'hôpital et je me suis dit ce qui m'est arrivé à moi, je ne veux pas que ça arrive aux autres. Et de là, donc on a créé la coordination des sans-abri. Donc j'ai mobilisé pas mal de gens qui étaient à la rue et de là, on a occupé le premier squat à 1000 Breteuil.
Bonjour, je suis un Kosovar.
On est au Kosovo Pech. Quand il y avait la guerre, nous, on est fui au Monténégro. Et là-bas, il y avait des gros, gros problèmes. Quand on est fui de la guerre, on n'avait même pas le droit d'aller à l'hôpital, pas le droit d'aller à la commune. On n'avait pas le droit d'aller faire porte-plainte quand on nous faisait la bagarre avec nous. On n'avait pas de l'eau et de l'électricité. Monténégro, il nous faisait la bagarre avec nous. Parce qu'on était des Roms au Kosovo. Nous, on est fui ici en France. On est resté à la rue 4 mois.
Amen. Nashlam, Karingati, Puchinem, Ban Miliev, Postejutila, Soven, Ane, Chera.
Il y a des chiens qui dorment dans les maisons.
À Nardo, Avri, Tenaso.
Les humains, ils dorment dehors.
Oui, ils me passent, Kassila, Tradiam, Avrien.
Thank you.
incarcéré en Suisse. Je viens de faire un an. J'aurais pu choisir de me faire expulser en Algérie, parce que j'ai la double nationalité, mais du coup, on m'aurait interdit tout le territoire de Schengen. Alors, j'ai choisi de revenir en France. Et j'avais plus rien, j'avais pas d'adresse, j'avais pas de compte bancaire, j'avais plus rien du tout en France. Et je me suis retrouvé à Nantes avec 30 euros, je crois, avec moi. Et après, j'ai appelé le 115, ils m'ont laissé dehors, tout était surchargé. Et le lendemain, j'ai refait le 115 et ils m'ont orienté vers la halte. Et je suis allé là-bas, ils m'ont reçu 6 jours. Et franchement, quand j'entends des fois des personnes qui me disent ce qu'ils ont vécu, putain, je me dis, oh, je sais pas. J'aime pas la France, j'aime les Français. Quand je vois mon père, il s'est cassé le dos toute sa vie. Alors que c'est lui qui a contribué avec encore beaucoup d'autres gens à ce qu'il y ait tout ça là, ici, parce que sans eux, ça serait pas construit tout seul. Et la reconnaissance, elle est où? Je sais pas.
Mon parcours a commencé en 99, à mes 16 ans. J'ai pris la décision de partir sans un sou, juste avec mes valises sur le dos. J'ai commencé par la rue, donc les foyers, le 115 aussi à l'époque. Je me suis débrouillé par mes propres moyens. J'ai fait du porte-à-porte pour faire des petits services chez les personnes âgées, n'importe quoi. Donc je me suis engagé à 18 ans. J'ai fait mes 3 ans de marine, j'ai arrêté mon contrat parce qu'ils n'ont pas voulu que je re-signe, malheureusement. Et ensuite, je suis parti après dans des cycles de travail au noir, uniquement des saisons. J'ai fait mes saisons et arrivé jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de soucis. Et dernièrement, j'ai eu une galère, donc je me suis retrouvé sans rien. Et je me suis retrouvé à la rue. Oui, la rue, je la comprends, je la vis aussi. C'est un milieu qui est quand même très très compliqué, très dur, très usant, psychologiquement, physiquement, parce que le système est fait que ben, les foyers sont ouverts seulement la nuit. S'il n'y a pas de rond dans la poche, eh ben, on marche. Donc c'est un cercle vicieux qui fait que tourner sans s'arrêter. On rencontre beaucoup de gens qui sont psychologiquement très amochés quand on a des difficultés personnelles. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand on est dans la rue, quoi. Toute la journée à passer dehors. Il y a plein de trucs qui remontent à la tête, des souvenirs, des douleurs, on ne sait pas où aller, on ne sait pas qui aller voir, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas par quels moyens se débrouiller. Ça peut amener à des situations assez critiques, comme des tentatives de suicide, des internements en HP, des trucs comme ça. Donc ouais, c'est à vivre au moins une fois dans sa vie pour comprendre ce que c'est que le rien, quoi, le néant. C'est dur, c'est froid, c'est long, et c'est pas cool.
Vraiment la journée type. Pour moi, bon, bah, c'est dormir. Là. Après, dans l'endroit où on peut dormir, donc déjà, donc le réveil, on se boit notre première bière. Après, si on est médicalement, on est suivi, on part au triangle. Après, on se reboit une autre petite bière. Après, on va chercher notre courrier si on n'a pas bu trop de bière. La mendicité qui suit tout de suite derrière, aller manger dans un coin autre, ça peut être Pierre Landais ou tous les coins associatifs qui peuvent exister, voire pas manger. Et la fin du compte, en fait, c'est beaucoup dehors, passer les journées, parler, voir les potes, les copains de rue. Et après, le soir, ça se termine. Et voilà.
Sans-abri qui vient ici, qui est extrêmement réglé, minuté.
Bernard H.
La série rituelle.
Travailleur social.
Pour manger, donc ça commence par le repas du matin qui doit durer jusqu'à telle heure de l'après-midi, qui lui-même va se prendre d'une certaine manière, avec un certain type d'alimentation, acheté à tel endroit parce que là c'est moins cher. Puis il y a le stockage des affaires également qui est important. Quand on est sans abri, il faut se trimballer avec son barda sur le dos pendant toute la journée, sinon on se le fait piquer. On ne peut pas le laisser derrière un fourré ou autre, avec l'objet important qu'est le duvet quand même, et les affaires propres. S'il pleut moins, qu'il fait moins froid, ouais, ça facilite tout, ça facilite la vie. Et eux, quand ça facilite la vie, c'est 24 heures sur 24 que ça facilite. On va pouvoir dormir, on va pas être trempé le matin, on va pas se retrouver à trimballer un paco complètement trempé. C'est dur la vie dehors, c'est une vie de chien. Hein. On se lève le matin, on sait pas où on va dormir le soir. Quand vous êtes obligé de dormir, par exemple, à côté d'une grosse climatisation, vous avez du bruit tout le temps dans les oreilles. Si vous êtes trop isolé, vous risquez de vous faire agresser. Il ne faut pas qu'on vous voie. Voilà, tout est compliqué. Tout est compliqué. Mais la minute d'après est compliquée.
Effectivement, d'être dehors, on n'est plus dans un rythme jour-nuit parce que dormir de nuit dehors, on est en insécurité, donc c'est très compliqué. Donc on est toujours sur le qui-vive. Donc on essaye de dormir le jour parce que c'est plus facile, on risque moins d'être agressé. Mais sur ce le jour, on dort hyper mal parce qu'il y a de l'activité autour de soi, etc. Donc c'est très rapide. Effectivement, la chute peut être très, très violente et très rapide.
Qu'on voit arriver depuis maintenant 20 ans et donc maintenant encore plus grande quantité sont des gens extrêmement intégrés qui ont eu leur place, leur salaire, leurs enfants, leur vie structurée. Et à un moment, tout explose. Tout explose. Je veux dire, sans abri, c'est 2 ans après le licenciement. Hein. Il y a un moment où il y a une bascule dans la vie des gens. Ça tourne autour des questions de licenciement-divorce.
Brigitte M.
Je suis éducatrice spécialisée. J'ai été embauchée à la ville de Nantes en 1990 pour travailler auprès des sans-domicile dans un service qui se nommait La Marche. Effectivement, une rupture familiale, effectivement, une perte d'emploi amène à une dégradation de la situation. C'est plus rapide aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide, parce que la solidarité familiale n'est plus aussi la même, parce qu'effectivement, la société humaine a changé. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui travaillent et qui sont dans leur voiture, ils sont dehors. Ça n'existait pas encore il y a encore 20 ans. Avec un emploi, on arrivait à ouvrir la porte d'un logement. Aujourd'hui, c'est plus compliqué.
Je suis le docteur Ignal, je suis médecin psychiatre au CHU, chef de service, mais particulièrement je m'occupe de l'équipe de liaison psychiatrie-précarité qui est une des équipes mobiles qui a été créée en 2005 sur le CHU. On rencontre de plus en plus de jeunes qui ont eu des parcours d'accompagnement dans l'enfance, etc. Et puis qui, à 18 ans, alors soit choisissent de plus avoir envie de travailler avec les travailleurs sociaux, etc., qui veulent faire leur vie, etc. Nous, on remarque que c'est une population qui augmente un peu. Et qui est moins, je dirais, moins typée comme il y a quelques années, mais ça, c'est un peu notre impression, qui était typée profil toxicomane. Mais structuré comme toxicomane. Alors qu'à l'heure actuelle, ces jeunes sont vraiment dans des grandes difficultés de structure interne, dans des grandes carences affectives.
Avant, moi, je me rappelle de Bouboule. Bouboule, Mickey, des gens qui sont morts hein, maintenant. Les mecs, c'était... On retrouvait l'itinéraire tout au long. Depuis l'enfance, on refaisait l'itinéraire depuis l'enfance. Cet enfant mal grandi... qui finit par, sous prétexte qu'il est majeur, être responsable de lui-même et n'être plus responsable de rien. Voilà, ça c'était un peu l'enfant de foyer qu'on retrouvait 30 ans après. C'était un peu ça, le cliché, l'enfant de l'assistance. Quoi. Voilà, de plus en plus, on se retrouve avec des situations où il n'y a pas cet itinéraire.
Dans les personnes qu'on rencontre, il y a des personnes qui ont... Une pathologie mentale vraiment avérée, quoi. C'est-à-dire qui ont déjà eu des soins, qui ont arrêté les soins, qui sont dans des ruptures sociales. Ça, c'est une partie de la population. Après, il y a toute une partie qui est plutôt dans des difficultés psychologiques, des troubles de personnalité, enfin des carences affectives, enfin et qui souvent sont associées à des conduites addictives. Bon, type alcool, cannabis, enfin, etc. Ça veut dire que vous avez des surconsommations d'alcool pendant des années. Évidemment, il y a quelques troubles neurologiques associés. Et donc des troubles de la pensée, des troubles de mémoire, des troubles de l'orientation. Enfin, certains sont quand même physiquement bien abîmés. Quand même.
Il y a une augmentation de la population étrangère qui arrive sur Nantes.
Jean-Claude Laurent, directeur du 115 et du SAMU social.
Dans toutes les grandes agglomérations, on le constate. Alors, en ce moment, mais toutes. On est là-dessus. Globalement, la demande d'asile a dû augmenter de 20% l'année dernière sur l'ensemble de la France. Cette année, ça devrait être à peu près pareil. Comme c'est parti, ça devrait être à peu près ça.
C'est vrai qu'après, on dit, il y en a qui l'ont choisi. J'ai vraiment du mal vraiment à croire ça.
Oui, on a toujours l'exemple du, entre guillemets, clodo, qui a choisi la nare du coin. Moi, je me demande où il est, le choix réel, quand même.
J'ai jamais entendu quelqu'un me dire « je veux rester à la rue, ça me plaît ». C'est faux, les gens ne disent pas jamais ça. Ils disent toujours qu'ils ont envie d'être insérés, d'avoir un logement, etc.
Il y a des gens qui ont fait le choix, mais là, on est dans la littérature. Là. C'est Kerouac, les clochards célestes, on prend des trains aux États-Unis, voilà. Ou des clochards illustres, comme il y a eu à Nantes, Ulysse. Lui pourrait dire qu'il avait fait le choix d'être dans la rue.
André Lebeau.
Parce que...
Directeur du restaurant social Pierre Landais.
Voilà, c'est une forme d'anarchiste un peu éthylique. Aujourd'hui, je pense... Il n'y a personne qui peut prétendre faire le choix d'être dans la rue. Non.
Parce que les sans-abri, ils sont pas. La majorité, ils sont dehors. Hein. Ils ne sont pas en foyer. Il y a quand même tous ceux qui ne veulent pas y aller. Il y a tous ceux qui se démerdent.
Le nombre de personnes à la rue à Nantes. À l'instant T, on se demande qui serait capable de recenser ça, quoi. En tout cas, nous, on ne peut pas le faire. En plus, ça serait pas une information réelle, ça serait uniquement le nombre de personnes à la rue qui ont appelé. Or, on sait, et ça, le SAMU le sait parce qu'il les voit, qu'il y a beaucoup de gens qui n'appellent pas. Énormément de gens qui n'appellent pas. C'est très mouvant, quoi. On a des populations de gens comme ça à la rue qui sont mouvantes, qui pendant 15 jours, 3 semaines, parce qu'ils ne sont pas bien, vont rester dans les structures. Puis au bout de 15 jours, 3 semaines, vont repartir. Ou parce qu'ils ont des problèmes d'addiction. Et tout ça. Donc c'est des gens qui sont quelquefois très, très difficiles à saisir.
Oui, il y a une évolution dans la paupérisation des populations. Oui, ça c'est clair. De plus en plus de gens à la rue qui ont de plus en plus pour souci d'arriver au lendemain ou à la fin de la journée.
Mais après, il n'y a pas que ce, comme on peut dire, ce profil. Maintenant, il y a vraiment de tout, quoi. Enfin, c'est n'importe qui, en fait. Hein. Un appartement, je pense que c'est la priorité, vraiment, au niveau, pour le début de tout. On ne peut pas avoir vraiment un travail si on n'a pas d'appartement. On ne peut pas être en tente. Et travailler.
Je pense que de toute façon, pour travailler, il est impossible d'être dehors. Enfin, c'est très compliqué de vivre dehors quand on veut obtenir un emploi. Et comme tout être humain, on a besoin d'un toit, de manger et d'un emploi parce que la valeur travail a encore une signification. Donc oui, globalement, on pourrait dire ça. Mais c'est les besoins de tout à chacun. Si ce n'est que, ben oui, le logement, c'est primordial. Et je dis bien le logement, je ne parle pas d'hébergement. Parce que ça, c'est un truc qui m'insupporte. Et pour moi, en plus, le logement est un droit.
Non, mais il faut être clair. La situation des sans-abri en France, tant qu'on n'aura pas résolu les questions de logement et d'emploi, on n'aura rien résolu.
Il y a quelques années, au moment où Don Quichotte s'est mis en place, sur la télévision, je vois, c'est interloqué, et de cet homme, expliquant que ça faisait 3 jours qu'il était dans la rue. Il commençait à se rendre compte qu'il avait perdu la notion du temps.
Il y a des moments charnières. C'est-à-dire, laisser traîner quelqu'un 6 mois à la rue, moi je dis 6 mois de rue, 2 ans pour récupérer. Il ne faudrait pas que quelqu'un passe 6 mois à la rue. Parce qu'au bout de 6 mois, vous structurez votre vie. Il y a quand même un gros risque de changement interne hein, par la personne. On sauve sa peau à un moment donné.
Moi, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à certains, je pense, parce que je suis pas resté longtemps non plus. Je suis resté que 2 ans et demi, quoi. Et il y en a que je vois, c'est des dizaines, quinzaines, voire plus. On le voit, leur corps est pris. Enfin, c'est... Souvent, bah oui, ils s'endorment, ils se réveillent pas.
Jean-Claude Laurent, je suis directeur de l'association Saint-Benoît-Lavre et je suis temporairement missionné pour diriger la maison de la veille sociale qui gère le 115 et le SAMU social de Nantes. Les missions du SAMU social nantais, donc les missions de maraude, et puis une autre mission qui est une mission de mise à l'abri des personnes, des familles, mise à l'abri à l'hôtel. Donc le numéro d'appel des sans-abri. Alors où ils sont, bah, je ne vous le dirai pas parce que l'adresse doit rester mystérieuse, on va dire. Bah, le 115, c'est un numéro de téléphone, hein, tout simple. Donc les gens, en fait, ne savent pas où ça arrive. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Le problème qui se pose actuellement, essentiellement, c'est un manque de place. Parce que s'il y a beaucoup d'appels, c'est parce que les gens ne sont pas hébergés. Si c'est pour répondre plus vite non aux gens, l'intérêt est quand même limité, quoi. En nombre de places globales, si on prend le département, on doit bien être à plus de 1000 places d'occupées disponibles. En moyenne, on a en gros entre 15 et 20 places à donner par jour aux personnes. Sur l'ensemble de l'agglomération nantaise. Et on a 250 à 300 appels par jour. Donc il y a quelques rotations naturelles, on va dire des gens qui passent très peu de temps dans les places, et puis il y en a d'autres qui restent dans les places, en insertion, donc normal. Et puis, voilà, c'est comme ça que ce peu de places, on va dire, disponibles tous les jours apparaît, quoi. C'est 15 à 20, pas plus.
C'est bien qu'on pense comment on aide quelqu'un à habiter quelque part. Voilà. Et du coup, tout ce processus, alors, avec des choix qui sont différents, c'est-à-dire une critique sur ce qu'on a appelé la démarche d'escalier, je suis accueilli une journée, puis je serai accueilli 15 jours, puis après je serai accueilli un mois, puis si je suis accueilli un mois, je serai accueilli un peu plus, puis j'ai reçu HRS. Bon, c'est très progressif, tout va merveilleusement bien, c'est limité à 2 mois, vous faites 6 mois, puis hop, vous sortez de là, tout est réglé. Bon, ben, rien n'est réglé. Parce que de toute façon, pour certains, il faudra quand même un tricotage long, peut-être toute leur vie. Enfin bon, c'est comme ça. Et donc, il faut imaginer une souplesse et puis des moments où il y a une intensification du soutien.
Si vous prenez un gars qui est extrêmement alcoolisé, enfin qui est imbibé, enfin voilà, il y en a des comme ça, qui est violent, etc., puis que vous arrivez au bout de 6 mois, 1 an à ce qu'il intègre un logement, qu'il s'y tienne à peu près à carreau, qui maîtrise à peu près sa consommation, bah vous êtes dans le bon, mais bon, de temps en temps, il va bousiller votre relationnel dans le quartier, quoi, voilà. On n'est pas trop mal, quoi, voilà. C'est ça, voilà, c'est tout dépend d'où on part, quoi. Et puis on a des gens, par exemple, qui ont un problème de handicap, si c'est un handicap mental, si on arrive à le faire retourner, entre guillemets, dans le secteur du handicap, où il sera bien mieux pris en charge, parce que c'est leur métier, c'est pas un mauvais résultat non plus. On est sur la durée. C'est ça, voilà. Les gens, on ne réinsère pas, c'est pas un coup de baguette magique. Les gens, des fois, il faut 4, 5 ans de... Il y a des gens qu'on connaît depuis 15, 20 ans. Hein.
Le,
Le problème pour nous, c'est d'avoir une palette d'outils pour répondre aux gens au moment où ils sont prêts. Et ça, c'est difficile. C'est des questions de moyens, c'est des questions d'opportunités aussi, d'appréciation du diagnostic. On a une population qui sont dans des situations d'handicap acquis. Alors, vous pouvez avoir des gens, par exemple, qui sont bien importantes ou qui n'ont pas forcément trop de problèmes, qui seraient susceptibles d'être insérés, mais qu'on n'a pas pris suffisamment tôt, puis que la vie dans la rue, par contre, a rendu malade mentale, entre guillemets. Il faut être prêt au moment où ils sont prêts. C'est parce qu'à un moment donné, ça finit par arriver, mais quelquefois, c'est trop tard. C'est souvent le cas, malheureusement, de personnes qui sont vieillissantes, par exemple, le déclic, on va dire, se produit trop tard. C'est-à-dire que quand la santé est déjà tellement atteinte qu'il n'y a plus grand espoir qu'ils s'en tirent vraiment. Quoi.
Il y a des travailleurs sociaux qui sont vraiment armés. C'est quand même pas très facile. Je trouve qu'il y a une tendance quand même à sous-professionnaliser les lieux d'accueil, globalement.
On avait une évaluation de professionnels qualifiés. Aujourd'hui, t'as qui comme professionnel qualifié sur la place? Quand je dis professionnel qualifié, c'est pas un écoutant, pas un veilleur de nuit. Je parle du bac plus 3, avec un diplôme d'État de référencé, EDUXP, AS, je m'en fous, mais quelque chose, tu sais mener un entretien, tu sais ce que c'est qu'une problématique sociale individuelle, tu sais les questions qu'il faut que tu poses, et comment il faut que tu avances. Voilà, tu as une méthodologie de travail. Et ça, t'as plu.
C'est-à-dire que dans certains lieux, c'est plus des assistantes sociales qu'on met, mais des aides sociales ou je ne sais pas quoi, des nouveaux métiers là, d'accompagnement sociaux, etc., mais qui sont quand même des temps de formation très courts. Et du coup, il y a peu de recul. Il y a aussi toute la question du réseau bénévole. C'est-à-dire beaucoup d'actions sont quand même soutenues par des bénévoles. Moi, je ne suis pas contre les bénévoles, mais il faut aussi que les bénévoles se forment. Enfin, ça ne suffit pas d'avoir un grand cœur et de vouloir aider les précaires pour avoir la position juste quoi, dans la relation. Donc. Je pense que les dispositifs d'accompagnement jeunes adultes ont quand même été un peu mis à mal. Tout ce qui est suivi, quand il y a eu des problèmes de justice, les accompagnements, il y en a moins. Les contrats jeunes majeurs, il y en a moins. Alors du coup, ils se retrouvent dans un circuit, squat, rue. Alors, il y a eu le SAPSD, avec qui nous, on a beaucoup travaillé. Bon, à l'heure actuelle, ça a été restructuré. Je regrette que l'équipe du SAPSD ait éclaté. Je trouve que c'est plus complexe, le travail.
Tu poses la question à tous les anciens sur le milieu des sans-abri, tu leur demandes mais comment c'était du temps de la marche ou du temps du SAPSD, grosso modo tout le monde te dira c'était vachement mieux. Parce que ça, voilà, t'avais un truc central, tac, 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 tu vois, on faisait gare de triage quand on bossait là-bas. On rencontrait les gens, on savait sur quelle structure il fallait les orienter pour qu'ils y soient bien, tu n'orientes pas un jeune ou une jeune femme, de la même manière que tu orientes le vieux pochetron de 60 ans qui commence à 4,5 g le matin. Donc normalement, c'est la veille sociale qui l'organise, ça, maintenant. C'est elle qui gère tout de le mec, il est à la rue, à il rentre en CHRS. Donc CHRS, c'est des admissions de 6 mois renouvelables. Et donc, tous les trucs genre la halte, genre le 24 bis, c'est les structures intermédiaires. Après, il faut avoir les moyens. Mais une fois que tu as les moyens, si tu as si t'as une bonne organisation, ça roule.
Les personnes, quand elles bougent, elles sont attachées à un travailleur social. Moi, je vois une femme avec qui on travaille, qui a été au CCAF, qui a été ailleurs, enfin, qui a changé de poste. Eh bien, elle a des personnes qui continuent à venir la voir. Normalement, elle n'a plus à les voir. Enfin, je veux dire, si on est... Mais, pour eux, c'est une référence, voilà. Donc ils vont la voir parce que quand ils ont un problème social, c'est elle qui vont voir. Parce que le changement, il passe par des gens. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se noue avec un des intervenants, et puis c'est à partir de là que ça se tricote.
J'étais suivi par une assistante sociale qui s'appelle Emmanuelle Billy, vraiment très très forte, quoi, vraiment, elle a ça là-dessus, vraiment. On pouvait arriver à n'importe quelle heure à trouver du temps. En plus, on arrivait, moi, elle me servait le café, on discutait de la vie, ce qui me faisait bien, c'est comment tu vas aujourd'hui, ça a été en ce moment, est-ce que tac, oui, oui, est-ce que si, est-ce que ça. Elle connaissait tout sur moi, elle a énormément participé à tout ça, vraiment. Si je l'aurais pas eu dès le départ, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne sont pas sur le terrain. Emmanuelle Billy, c'est peut-être l'une vraiment que j'ai connue qui allait sur le terrain. Si j'étais pas bien, que j'étais dans ma tente et qu'on avait un rendez-vous, elle me retéléphonait et si ça allait pas, elle se proposait à venir parler un petit peu. Mais c'est vrai que je pense que les personnes, il faut vraiment les valoriser.
Moi, je trouve une des difficultés, c'est que vous êtes dans ce processus-là, vous avez ces interlocuteurs-là. Vous allez mieux, vous changez d'interlocuteur. Vous allez encore mieux, vous changez d'interlocuteur. Et à un moment donné, c'est trop. C'est trop parce que, un, on perd l'histoire. Déjà, eux-mêmes perdent leur histoire et tout le monde perd l'histoire. On ne sait plus. C'est frappant. Enfin, les personnes ont du mal à raconter leur histoire. Et quand vous échangez à plusieurs, à un moment donné, personne ne sait plus l'histoire de la personne. C'est hors histoire. C'est normal, on est dans l'urgence. Il faut trouver un lieu ce soir, il faut qu'il dorme. On est dans l'urgence, donc il n'y a plus d'histoire. Notre société, elle a hyper valorisé l'autonomie, le sujet, etc. Très bien. C'est excessif. Ça, c'est un vrai problème. Parce que ça n'est pas, ça ne correspond. Nous sommes tous des dépendants. Alors, il y a des dépendants, on pourrait dire pathologiques, mais on est tous dépendants un peu des autres. Et après, ben, on négocie avec nos dépendances. Notre société, ben, elle survalorise un des aspects et pas l'autre. Et je crois que ça complique les liens sociaux. On n'apprend pas trop à traiter, par exemple, nos effets de dépendance. Dans l'éducation, d'être dépendant des autres, j'ai besoin des autres pour faire des choses. Politique dit plus personne dans la rue, c'est merveilleux. Ce qui n'a pas de sens, c'est pas de sens. J'ai quand même le droit d'aller dans la rue si je veux, non ? Faut quand même pas exagérer. C'est pas... Non, mais je veux dire, de fond, il y a une question de fond, ça. Je ne vois pas en quoi un homme politique serait autorisé à... Alors, on comprend bien hein, derrière le côté humanitaire, etc. Mais enfin, si l'humanitaire devient une stratégie politique, ça devient un peu complexe.
Enfin, maintenant, actuellement, on est beaucoup avide de statistiques. Enfin, ça, c'est aussi le problème de nos financeurs. Vous en avez rentré combien ? Il y en a quel pourcentage qui est parti en logement ? Quel pourcentage qui est parti ? Voilà, on est là-dedans, hein, clairement, c'est ça.
De plus en plus, depuis des décennies, on est sur des dispositifs, hein, question-réponse. T'as un problème de logement, on va mettre un dispositif qui va aider au logement. T'as un problème d'emploi, on te met un dispositif valable pour 5% de la population concernée. Il y a un effet d'annonce. Et donc, il y a une instrumentalisation du travail social. Ou, sous prétexte que c'est un travailleur social qui intervient, le boulot est fait. Eh bien non, on peut mettre un travailleur social. S'il n'a pas les moyens d'agir, il ne pourra pas agir. Donc, on se retrouve quand même dans une profession largement sinistrée en ce moment. Quand tu n'as pas de moyens pour bosser à long terme, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas faire de la visibilité sur l'urgence. putain, le mec il a froid, faut faire quelque chose tout de suite. Ah ouais, mais sauf que c'était au 15 août qu'il fallait s'en occuper, c'est pas au 29 décembre. Normalement, c'est le 115. Mais tu vois bien que le 115, il va s'occuper que des gens qui ont une demande d'hébergement d'urgence. Donc le mec qui a pas de demande, il fait quoi? Alors il va aller au CCAS, il va rencontrer les collègues qui est là-bas, et qui elles n'ont pas de réponse, et qui n'ont pas de possibilité d'accompagnement à long terme, puisqu'il n'y a plus de service. Pour peu que le mec il oscille entre les ACDIC, le RSA, l'AH, enfin tu vois qu'il y a une petite... On va se le renvoyer de service en service, salut mon pote. Et après on va dire qu'ils font du non-recours. C'est une gestion de com, hein. Voilà, c'est pas autre chose. Ah, il y a un problème chez Decret. Bon, alors on va envoyer la police municipale, puis on voit, ça se tasse pas, sinon on intervient, la sécurité c'est important pour les Nantais. Il y a des problèmes en centre-ville, le journal aujourd'hui, les gens qui sont agressés. Et puis voilà, ça fait une ville calme, pacifiée, où tout le monde vit en parfaite harmonie, dans le respect de l'ordre social, dans le maintien de l'ordre social. Pour catégoriser un petit peu, essayer de se repérer, tout le monde n'est pas dans la même situation pour la même raison. Tout le monde n'a pas la même histoire de vie. Pour autant, il y a des constantes. Et ce qui déstructure l'humanité d'un humain, ça reste quand même le lien social créé par l'emploi qui donne également l'autonomie. L'autonomie financière et la possibilité d'émancipation par les moyens qu'il donne. Après, ça dépend comment on considère le travail. Le travail peut être une activité humaine qui permet à l'être humain de sortir de sa condition. Moi, c'est de ce travail-là dont je parle, hein. C'est le chef d'entreprise qui donne du travail. C'est faux. C'est totalement faux. Qu'on ne me dise pas que sans Martin Bouygues, on ne ferait pas d'immeubles. C'est les travailleurs sans papier qui les font, ces immeubles, à Martin Bouygues. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de travail. C'est que ceux qui détiennent le pouvoir de le créer ne veulent pas le faire parce que ça ne leur apporte pas assez d'argent. Tout le monde parle de lien social, surtout les dominants. Et quand on dit on va restaurer le lien social, c'est on va essayer de restaurer un petit peu de solidarité dans cette classe sociale des pauvres ou des exploités. Mais le problème, c'est que justement, pour continuer à l'exploiter, il faut faire péter ce lien social. Et il faut faire péter ces solidarités. Donc d'un côté, on disqualifie ceux qui luttent, mais de l'autre côté, on reproche aux pauvres. Ils sont capables de rien, ces gens-là. Enfin, ils sont bons à que dalle, quoi, quand même. Hein. Ils ne savent pas être solidaires. La classe dominante est la classe la plus solidaire. Du moment qu'on reste dans les normes, avec des dominants, des dominés, que ça reste les mêmes surtout, tout va bien. Le modèle qui est en train d'être construit, c'est le CAIR, dont s'inspire beaucoup le Parti Socialiste. Hein. C'est Ségolène Royal, hein, le CAIR, hein, à Domfort. Alors le CAIR, c'est quoi? Le CAIR, c'est on va construire des institutions, une société, qui va pouvoir s'adapter aux besoins quotidiens des gens. On les maintient dans la simple survie. En fait, comment on va aider les gens à survivre? Avant, on se posait la question, quand on se pose la question de l'intégration par le travail, on se posait la question de qu'il arrête de survivre, qu'il se mette à vivre. Aujourd'hui, on est maintenant, comment on peut les faire pour aider les gens à survivre?
En fait, on nous rentre dans un système, alors est-ce que c'est conscient ou inconsciemment, on nous rentre dans un système, bah, des fois même beaucoup de personnes rentrent dans ce système. Parce que c'est pas qu'ils l'affrontent pas, mais parce qu'on leur donne pas confiance en disant « Ouais, bah pourquoi tu sais pas de faire ça ?» Moi, des fois, je parle avec des gens, je leur dis « Tu sais, il y a rien qui est farfelu dans la vie. » Des fois, on va me dire « Mais non, c'est pas un métier où je vais pas... » Le problème, on est que socialement, on est dans un truc, on va dire « Mais non, c'est pas un métier » ou « Mais non, là, tu fais pas... » On a toujours ce problème-là que, genre, si t'es pas à l'usine, c'est pas un métier. Mais il faut nous laisser aussi avec nos rêves. Bien sûr, faut pas être que des rêveurs, mais des fois, le rêve, c'est bien aussi. J'ai l'impression, en fait, qu'ils nous tiennent dans leur truc.
Quelle est la proposition sociale pour les sans-abri? Pour les sans-abri ou autres, précaires et ou pauvres, hein. Mais quelle est la proposition sociale? Même question que tout à l'heure, on les intègre, on les insère dans quoi? Bah, il n'y a pas de proposition.
Je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens concernés par le logement. Mais de ce phénomène-là, qui est dû à la nécessité aussi, hein, c'est-à-dire de faibles revenus, des jeunes qui sont en contrat précaire. Je me suis rendu compte aussi, de proche en proche, que c'était toutes les dimensions. Il n'y a pas que le logement qui est en jeu là-dedans.
Camille,
il y a absolument tout.
Militante pour la cause des sans-papiers et des précaires.
Il y a le travail, il y a le mode de vie, familial, de couple, etc. Il y a les transports, la santé, tout, absolument tout. Les rapports de genre. Ouais, parce qu'après, de proche en proche, ça atteint tout ton mode de vie, toutes tes façons de voir. Enfin, moi, ça m'a vraiment fait ça. Ça m'a vraiment fait changer ma façon de voir. Tu vois, sur des questions très concrètes, comme, je sais pas, moi, par exemple, la question des retraites, hein, la dernière grand mouvement classique auquel j'ai participé, c'était celui des retraites. Le système ne la peut absolument pas tenir, puisque les jeunes n'ont absolument aucun moyen de répondre aux durées de cotisation nécessaires pour avoir une retraite, et ils ne le souhaitent pas. C'est-à-dire que tous les jeunes que je vois ne souhaitent pas travailler à plein temps. Enfin, ils ont fait une impasse totale, ils ne pensent même plus en ces termes-là. Ils savent très bien qu'ils n'auront pas de retraite, ils s'en foutent parce que de toute façon, ça ne marche pas. Et puis, même par rapport au travail, ils ne sont même pas dans la recherche d'une vie centrée autour du travail qui permettrait que cet ancien système qui fonctionne. Il y a eu un moment qui était très très drôle, il y a environ un mois et demi, où tout un tas de personnes disaient « bon, bah là, allez, je recherche du travail, Et puis il y a toutes celles au début auxquelles on a proposé des plein temps, c'est-à-dire « non, 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 moi je ne peux pas travailler à plein temps, alors soit je ne vais pas le supporter, deuxièmement, ça ne me satisfait pas, c'est-à-dire j'envisage pas ma vie avec « je pars le matin au boulot, je rentre le soir ». Quand s'en est rendu là, tu veux pas vivre justement selon des modalités classiques, la famille, le couple avec enfants, enfin tu vois des trucs relativement classiques comme ça. Bon, le contrôle, c'est quand même aussi des modalités de contrôle social que d'être dans des fonctionnements comme ça. Plus de contrôle social par le travail, tu veux pas travailler à plein temps et cotiser et... la famille, pas le travail. Pas la patrie, tu vas où là? C'est le système là, il tient pas quoi. Moi je pense qu'il tient pas. Donc tout est à faire, à refaire. Et globalement, je pense que faut reposer ces questions là, la question de comment on vit et on n'a pas les réponses pour l'instant. Les gens font, ils essayent des trucs. On verra bien si ça.
C'était les sentinelles du collectif Le Pontagène à Nantes.
Au quatrième top, il sera temps d'écouter le journal de la création sonore.
C'est l'heure du journal de la création sonore, de Récréation sonore, tous les dimanches. En fin d'émission, on vous propose l'actualité de la création sonore en France et ailleurs. Appel à projets, concours, festivals, événements, soirées d'écoute, stages. Eh bien, partagez vos infos avec nous et puis on les transmettra à l'antenne chaque dimanche en fin d'émission. Pour nous écrire, c'est via notre page Facebook Récréation Sonore ou par mail à créationsonore@radiocampusparis.org. Cette semaine, on vous propose 4 séances et événements d'écoute, 2 appels à projets et concours et une formation. Lundi 12 octobre à Lyon, la Méga Combi. C'est le radiozine du mercredi de Radio Canut qui vous propose d'assister à son émission en public. Ce sera à Perrache, le lundi 12 octobre à 20h, au Périscope, 13 rue de Landine à Lyon. Pour plus d'infos, megacombi.com. Dimanche 18 octobre, c'est l'ACSR, l'atelier de création sonore radiophonique basée à Bruxelles, qui vous propose une écoute publique de Come, Come de Isabelle Dumont et Candice Saunier. Ce sera au Centre culturel Jacques Franck, chaussée de Waterloo à Saint-Gilles, donc à Bruxelles. Et ce sera une entrée libre à 17h. Pour plus d'infos, acsr.be. La FIAC arrive à Paris et, en partenariat avec Radio France, vous propose un parcours sonore à la maison de la radio. Ça sera à partir du 20 octobre et ça va courir jusqu'au 13 décembre. Vous avez à la fois ce parcours sonore à la maison de la radio et puis une journée événement FIAC, toujours à la maison de la radio, le samedi 24 octobre. Pour plus d'infos, maisondelaradio.fr. Vendredi 23 et samedi 24 octobre, dans les Cévennes cette fois-ci, un bivouac radiophonique est organisé par Radio Escapade et Faune Radio. Échappée sonore pour Écoute Élastique, c'est le thème de ce bivouac qui sera à la fois à l'Observatoire Météo du Mont-Aigoual, au Ravin des Arcs et puis au Théâtre Albared qui se trouve à Ganges dans les Cévennes. Pour plus d'infos, rendez-vous sur fauneradio.com, faune F-A-U-N-E. Appel à projets et concours, deux dates limites. La semaine prochaine, le 15 octobre, sera la date limite pour participer au prix de la création documentaire Longueur d'onde, le festival qui se déroulera à Brest en début d'année prochaine. Donc pour la création documentaire en catégorie grandes ondes et petites ondes, la deadline c'est le 15 octobre, donc dépêchez-vous et rendez-vous sur longueur-onde.fr. 15 octobre également, date limite pour participer à la Nuit de la Découverte sur France Culture, un appel à projets réservé aux 18-30 ans. Dépêchez-vous d'aller sur franceculture.fr si vous voulez participer. Et pour terminer, une formation à Toulouse dont on vous a déjà parlé la semaine dernière. Il est peut-être encore temps de s'inscrire à la formation La Radio, un outil d'éducation populaire qui se déroulera du 20 au 23 octobre et ensuite également du 17 au 20 novembre. C'est organisé par la coopérative Du Vent Debout à Toulouse. Rendez-vous sur vent-debout.org. C'est la fin du journal de la création sonore, préparé et présenté par Joyce Conroy-Actouche. Merci au site saintaune.fr et à l'équipe de récréation sonore. Et puis à vous, envoyez-nous vos infos et à la semaine prochaine.
Récréation.
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 Sonore.
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 Récré.
Sonore.
Sonore.
Sonne.
Ré.
Sonore.